Mes amis, Monsieur Lacaze, 3. La rue était calme. On ne voyait pas le soleil, pourtant on le sentait. Le trottoir, qui allait se trouver à l'ombre dès que le ciel s'éclaircirait, était plus frais. Je marchais vite pour pouvoir être plus seul et pour pouvoir mieux réfléchir. Monsieur Lacaze m'avait impressionné, non seulement à cause de sa richesse, mais parce qu'il avait de la volonté. Les événements ne s'étaient pas passés comme, la nuit, je me l'étais imaginé. Il en est toujours ainsi. Je le sais, et j'ai beau me contraindre à ne pas faire de suppositions, mon imagination prend chaque fois le dessus. Certaines réflexions de l'industriel m'avaient vexé, mais, après tout, il ne me connaissait pas. Peut-être que moi aussi, je l'avais vexé. Les gens riches ne nous ressemblent pas. Ils ne doivent pas attacher beaucoup d'importance aux petits faits. Il était 11 heures. La perspective de retourner dans mon quartier ne me souriait pas. J'avais de l'argent. Pourquoi ne serais-je pas allé à Montmartre bien boire et bien manger et oublier pendant quelques heures ma solitude, ma tristesse et ma pauvreté? À midi, j'arrivais sur les boulevards extérieurs. J'avais faim. Et pour être plus affamé encore, je flânais exprès. Des arbres maigres, sans feuilles, sans écorce, ficelés à un poteau, plantés dans un trou sans grille, se suivaient de 50 en 50 mètres. Entre chacun d'eux, il y avait un de ces bancs marrons, sur quoi on est obligé de se tenir droit. Par-ci, par-là, une baraque Villegrain vide, un chalet de nécessité avec des affiches d'avant-guerre, un étranger qui déplie un plan ou qui consulte un Baedeker, reconnaissable à la tranche. Je m'arrêtais devant chaque restaurant pour lire le menu polycopié, collé sur une vitre. Enfin, je pénétrais dans un restaurant à demi dissimulé par des caisses d'arbustes. On ne voyait pas les pieds des tables, à cause des nappes. Il y avait du monde, des glaces qui se reflétaient les unes dans les autres, jusqu'à ce qu'elles devinssent trop petites, des chapeaux obliques aux porte-manteaux, et une caissière sur un tabouret trop haut. Je m'assis. L'huilier, le menu debout entre deux verres, une carafe à facettes et une corbeille à pain étaient à la portée de ma main. En face de moi, un monsieur qui, pourtant, avait l'air honorable, dessinait des femmes nues pour avoir le plaisir de noircir un triangle au milieu. Plus loin, une dame se curait les dents avec une épingle. Moi, je n'aurais pas pu faire cela.
« Rose, l'addition !»
cria un client dont la voix me parut étrange, sans doute parce que je ne l'avais jamais entendu. La bonne s'approcha, avec son tablier blanc, son crayon dans les cheveux et ses ciseaux pour les raisins. Je la regardais. Ses jambes montaient dans la jupe. Ses seins étaient trop bas. La gorge blondissait au bord du corsage. Quand elle s'en alla, emportant des assiettes sales, le corps me sembla moins défendu, la nuque plus intime, parce que je la voyais de dos. Enfin, elle s'occupa de moi. Elle m'apporta successivement 1 litre de vin, une sardine sans tête, une tranche de rôti avec un morceau de ficelle, une purée rayée à la fourchette. Un nouveau client s'installa à côté de moi. Je dus manger les coudes serrés contre le corps, ce qui m'est désagréable. Il commanda une bouteille d'eau de Vichy. Il écrivit son nom sur l'étiquette parce qu'il ne buvait pas tout le même jour. Un mendiant entra dans le restaurant, mais il n'eut pas le temps de faire la quête, car la bonne le chassa avec sa serviette, comme au temps où, fille de ferme, elle effarouchait les oies en gesticulant. Mon assiette, essuyée à la mie de pain, avait des reflets gras. Je criais, comme je l'avais entendu faire,
« Rose, l'addition !»
La bonne crayonna des chiffres au verso d'un menu, puis, pour me rendre la monnaie, tint entre ses dents le billet que je lui avais donné. Bien qu'un peu ivre, je sortis avec la gaucherie d'un homme nu. après avoir acheté des cigarettes High Life qui, malgré cette appellation, ne coûtent qu'un franc, j'entrais dans un bar. Une vapeur légère s'évadait en sifflant d'un percolateur nickelé. Un garçon, enroulé dans un tablier blanc, essuyait avec un linge l'empreinte des verres sur les guéridons. Les cuillères sonnaient contre les tasses épaisses, ainsi que de la fausse monnaie. Comme j'aime à me regarder de profil, je m'installais de façon à voir dans une glace une autre glace reflétant mon image. Quatre femmes qui fumaient occupaient une table. Leur corsage était teint à la boule colorante. L'une d'elles avait un de ces manteaux sur lesquels on souffle pour savoir si c'est de la loutre. Justement, celle-là se leva et, le manteau ouvert, la cigarette entre deux doigts raides, elle vint à moi. Les talons de ses souliers étaient trop hauts. Elle avançait comme quelqu'un qui marche sur la pointe des pieds. Elle s'assit près de moi. Sa bouche paraissait dessinée sur la peau, tellement le contour en était net. La poudre de riz, grenue aux narines, sentait bon. Elle avait sur les lèvres un peu de l'or du bout de sa cigarette. Elle croisa les jambes avec désinvolture, ainsi qu'un homme. Je remarquai que ses bas blancs étaient noirs à l'os de la cheville. « Alors, que m'offres-tu, mon ami ?» Après tout, pour une fois, je pouvais bien oublier mes chagrins et m'amuser. « Ce que vous voudrez. » Le garçon, qui ne semblait pas trouver bizarre l'attitude de cette femme, s'approcha. « Une bénédictine, Ernest. »« Bien. Et vous, monsieur ?»« Merci, rien. J'ai déjà pris un café. » Et je montrai ma tasse. « Allons, prends donc quelque chose avec moi, mon chéri. »« Oui, si vous voulez. » Une bénédictine. Quand ma voisine eut bu sa liqueur, elle se leva et, après avoir cherché son chapeau à la place qu'elle avait occupée précédemment, elle me pria de l'attendre. J'attendis jusqu'à 6 heures. Elle ne revint pas. Elle s'était moquée de moi. J'appelai le garçon et, en payant, je lui expliquai, sans qu'il me le demandât, qu'un mal de tête violent m'avait contraint de rester là. Puis je sortis. Ce ne fut qu'après avoir rôdé une demi-heure autour de ce bar que je réussis à m'en éloigner. La nuit tombait. L'air était lourd. Les rues sentaient le macadam comme quand on les répare. J'avais l'impression désagréable de sortir de table alors que les gens se préparent à s'y mettre.